fait, je pense que c'est déjà trop tard. Je suis assez convaincue que pour abandonner, il faut être lucide. Et il faut savoir que c'est techniquement possible et que ça puisse être une option. En fait, c'est pas du tout, c'est pas du courage, c'est pas... Je suis pas fière de dire ça, mais je ne pense même pas à abandonner. Et je pense que j'en suis techniquement pas capable parce que c'est pas dans mon esprit. C'est, mon esprit est déjà trop loin et trop peu lucide pour se dire que, bon, en fait, là, ça va vraiment pas, quoi. C'est... Colline, tu marches pas droit, en fait. Donc, arrête-toi et pas forcément abandonne, hein, mais même juste marche 2 minutes et puis on repart tranquille. Cette lucidité que j'avais pu avoir sur mon premier marathon de dire, en fait, on va y arriver, donc c'est pas grave, tranquille. Là, je l'ai pas du tout. Je suis techniquement incapable, je pense, de me dire que ça va pas et qu'il faut que je prenne une décision.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Colline Margot, une coureuse amatrice qui va partager avec nous son marathon de Tours sur lequel son corps lui a rapidement envoyé des signaux qu'il ne se passerait pas tout à fait comme prévu. Colline a couru 41,9 km de ce marathon. Les 300 mètres qui la séparaient de la ligne d'arrivée, Colline sera dans l'incapacité de les réaliser. A posteriori, elle considère même qu'elle aurait dû stopper ce marathon bien plus tôt. Mais de son propre aveu, elle n'avait déjà plus la lucidité nécessaire pour réussir à prendre cette décision. L'histoire de Colline, c'est aussi l'occasion de rappeler combien il est important de ne jamais banaliser une course, quelle qu'elle soit, et notamment ce format marathon. Je vous propose de vivre avec moi un épisode très touchant, mais aussi riche d'enseignements et teinté d'optimisme pour l'avenir. J'ai été très ému par nos échanges et par cette expérience profondément marquante de la vie de Colline. Mais je ne vous en dis pas plus. Colline va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, 41,9 km. Bonjour Colline, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Nous enregistrons cet épisode le 31 janvier. Alors le 31 janvier est un jour heureux qui a vu naître il y a quelques années Justin Timberlake dans un autre registre, Kinvey, mais qui est aussi particulièrement heureux pour moi parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de mon dry January. Voilà, donc je suis au bord du précipice, là je n'en peux plus, je compte les jours. Donc demain, enfin ou ce soir à minuit, c'est la libération. T'as déjà fait toi un dry January?
Pour le sport, oui, mais pas forcément en janvier. Mais je comprends que ça peut parfois être difficile quand tu as des événements... à fêter avec des copains et que, bah voilà, c'est limonade aujourd'hui.
Ça, c'est plus facile quand j'ai un rendez-vous sportif, tu vois, une course que je prépare, je sais pourquoi je coupe, là c'est juste j'attends le 1er février en fait, mais je ne regrette pas de l'avoir fait en vrai, c'est une bonne chose. Avant qu'on évoque plus particulièrement ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs, Colline, s'il te plaît?
Oui, donc je m'appelle Colline, j'ai 25 ans, je suis consultante dans un grand cabinet de conseil et j'habite à Maisons-Laffitte avec mon mari, qui est quand même une super ville pour les sportifs, parce que t'as la forêt, t'as une piscine, un stade, le Vexin à portée de roue, donc c'est vraiment... On a choisi cette ville-là parce qu'on a un style de vie assez sportif, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque t'étais enfant puis ado? Est-ce que t'as baigné dans un environnement qui était très... très orienté sport, déjà? Ou c'est des choses que t'as découvert plus tardivement?
Alors, j'ai toujours fait du sport, mais peut-être un peu plus sous la contrainte. Je faisais du judo quand j'étais petite et c'était vraiment parce que c'est un sport qui a des belles valeurs, c'est un bon sport pour éduquer ses enfants, on va dire.
Ça, c'est ce que pensaient tes parents ou ce que tu pensais toi à l'époque?
Je l'ai toujours su, je l'ai toujours compris, mais c'est vraiment un truc que mes parents voulaient nous passer. Et ma mère a fait du judo aussi, donc c'était vraiment un sport important pour eux. Mais c'est vrai que pour moi, quand t'es enfant, que t'es pas à un niveau de folie, c'est surtout des gens qui se battent en fait. Donc c'était pas vraiment mon délire et j'ai vraiment eu du mal à me dire ok je reste là-dedans parce que c'est important d'avoir fait un sport pendant longtemps. Mais j'en ai fait 10 ans et c'est vrai que j'ai pas trop accroché et même à côté de ça, le sport c'était pas mon truc à l'école, les sports co surtout ça m'allait pas du tout. Donc bizarrement oui j'ai vraiment pris plaisir dans mon sport sur le tard quoi.
Et c'est venu comment ce plaisir? Il est arrivé par la course à pied ou par un autre sport?
Ouais par la course à pied. Bizarrement c'est le sport bah, parce que c'est facile aussi, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, que j'ai gardé
facile
pendant mes études.
Facile d'accès, tu veux dire ?
Ouais, facile de juste prendre ses baskets et aller courir, et pas cher. Donc quand t'es étudiante, ça aide beaucoup. Mais au début, c'était vraiment pas un plaisir du tout, principalement parce que j'avais des douleurs, notamment aux hanches, des douleurs tendineuses. Donc c'est assez classique. Et puis quand on n'a pas une pratique très rigoureuse, moi, j'avais pas du tout entendu parler de choisir sa paire de chaussures correctement, tout ça. Donc au début, c'était un peu compliqué. Et puis ça a basculé en 2012, parce qu'on s'est inscrit avec ma famille à une course locale de la ville de Tours, les 10 km de Tours. Et donc on s'était un peu entraîné. Et c'est à partir de là où ça a été un peu plus régulier. On a refait cette course plusieurs fois. Et ça a fini de basculer assez récemment en 2018. Parce que j'ai préparé le marathon Niskan avec mon copain de l'époque qui est mon mari aujourd'hui. Et en fait, je me suis blessée pendant la préparation en le faisant en binôme. Donc c'était mon premier semi. Et je me suis blessée. Et donc j'ai dû me soigner parce que c'était en TFL. Donc j'ai pris des semelles, tout ça, et ça a fini de résoudre mon problème de hanche. Et j'ai enfin pris plaisir à courir, d'abord parce que j'avais plus de douleur, et ensuite parce que j'ai compris cette notion d'objectif, et de me dire, ok, je me prépare bien pour réussir à la fin, et pas me blesser, et que ça se passe bien. Et donc à partir de là, depuis que je suis très régulière, je cours toutes les semaines, c'est bizarre à quel point ça a été une bascule vraiment du jour au lendemain, et maintenant c'est plaisant, quoi.
Ce marathon Niskan, là, c'était, vous étiez à deux chacun, enfin, vous passiez le relais ou vous étiez tous les deux sur le marathon ?
C'est ça, le principe c'était de le faire ensemble et donc de se passer le relais au milieu. Puis finalement, donc, j'ai pas pu le faire, mon mari est allé avec un membre de sa famille. Et puis je l'ai vraiment vécu comme un peu un échec, quoi. J'étais sur la course pour encourager, j'étais un peu dégoûtée de pas participer et je me suis dit, ok, je reviendrai. Mais sous-entendu, potentiellement sur la course en entier. Et c'était mon premier... La première fois que j'évoquais pour moi-même l'idée, ok, peut-être que je peux faire un marathon. Et je n'avais pas encore fait mon premier semi, quoi. Donc c'était vraiment un objectif en me disant, ok, un jour. Et finalement, je l'ai fait directement l'année d'après, quoi.
Est-ce que tu peux nous dire ce que représentait justement le marathon à tes yeux à ce moment-là ? Est-ce qu'il y avait une dimension vraiment mythique ? Et pour toi, c'était un accomplissement de vie essentiel ?
Oui. Et pour autant, je me suis tout de suite dit que je ne voulais pas en faire un et passer à autre chose. Je l'ai préparé en me disant, ok, je prépare mon premier. Mais dans l'idée qu'il y en aurait d'autres derrière et que j'avais entendu cette expression de monter sur marathon après avoir fait plusieurs distances. Et moi, c'était vraiment mon idée. Je voulais que le marathon devienne mon sport. Et donc, monter sur marathon et profiter à fond du premier parce que j'avais appris de mon expérience de préparer une course et que, que pendant la prépa, peut-être que je m'étais un peu mis trop la pression. Et donc, j'ai préparé ce premier marathon avec beaucoup de peur parce que je me disais potentiellement, j'y arrive pas. Mais aussi en me disant, ok, je le fais pour le finir, prendre plaisir et derrière, vouloir y retourner. Donc, une préparation très rigoureuse. Et pendant la course, une gestion en me disant, ça va être incroyable, quoi. Et puis c'était incroyable parce que c'était en 2019, il y avait la tempête sur la plage, marathon 95%, je crois, sur la côte, quoi. Donc, gros risque avec la tempête. Ils ont failli annuler, on est parti sous des trombes d'eau, des éclairs, tout ça. Donc, vraiment incroyable. Et pour autant, à l'arrivée, grand soleil sur Cannes, beaucoup de plaisir. Cette idée aussi de peut-être lâcher prise un peu à la fin, pas se poser la question du chrono. Enfin, incroyable quoi. Première expérience idéale sur marathon.
Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu montes sur une autre course après ou le marathon était déjà en soi un très bel objectif ?
Je te cache pas que c'est un truc que j'ai en tête, mais pour l'instant, je pense que j'ai encore beaucoup à faire sur marathon. C'est peut-être un peu tôt encore. Mais oui, en fait, il y a la Saint-Élion qui me travaille parce que c'est la première course dont j'ai appris l'existence. C'est la première fois que j'entendais parler de course à pied sur une course. Et donc, j'ai toujours ça en tête pour plus tard. Mais clairement, c'est pas au programme à court terme, quoi.
Et le trail sur des formats plus courts, est-ce que c'est une discipline que tu as déjà explorée ?
Oui, en famille. Parce que c'est fun. pas du tout dans un état d'esprit performance et pour l'instant pas avec trop de dénivelé. Ça c'est peut-être le point difficile pour moi en course à pied encore, donc à voir pour plus tard effectivement, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler.
Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu organises ton année de course ? Comment est-ce que tu te fixes ces objectifs ? Est-ce que l'idée c'est d'en avoir un gros dans l'année ? Est-ce que c'est plusieurs ou est-ce que c'est pas systématique ? Comment est-ce que tu te laisses guider ou est-ce que c'est là aussi très structuré dans la préparation de ton calendrier en lui-même ?
Dans l'idée, j'aimerais que ce soit structuré. Sauf que forcément, j'ai commencé à courir en 2018, donc mon expérience de course à pied est quand même très impactée par le Covid. Ce que j'aimerais faire, et idéalement ce que j'avais en tête à l'origine, c'était de faire un marathon vers l'automne, et du coup de pouvoir structurer la saison autour de ça, me dire que je fais un semi un peu plus tôt, peut-être au printemps, enfin, pouvoir structurer les choses comme ça, et puis bah voilà, les choses sont arrivées telles qu'elles sont arrivées, et aujourd'hui, finalement, je choisis beaucoup les courses en fonction des gens que je vais y retrouver. J'ai souvent un objectif pour moi important. Et puis après, c'est beaucoup des courses en famille, avec mon mari, où on choisit un peu plus à l'opportunité et parce que c'est chouette de le faire ensemble, plutôt que vraiment pour la performance. En général, j'ai mes objectifs performance et le reste de la saison se construit un peu à l'opportunité. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes points d'amélioration ?
Oui, je pense que justement, cet aspect discipline et ma capacité à y aller, typiquement, même quand il pleut, même quand il fait froid, c'est des choses qui sont venues assez naturellement chez moi. Après, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et on aura l'occasion d'en parler sur la gestion de la course. Je pense que c'est là-dessus où, pour prendre plaisir sur une course, surtout sur marathon, il faut quand même avoir de l'expérience et avoir fait des erreurs pour pouvoir ensuite... avancer là-dessus, donc je pense que je manque surtout d'expérience aujourd'hui pour ensuite prendre plaisir, parce que je sais un peu plus à quoi m'attendre, je pense.
Qu'est-ce que tu avais retenu justement de ta première expérience marathon, Niskan ? Quels enseignements ?
Peut-être principalement ce moment dans la course où ça devient vraiment difficile. J'ai le souvenir de plus réussir à relancer. Je m'étais fixé une allure un peu, c'était pour pouvoir... théoriquement le finir en 4 heures. Et puis il y a eu un moment où j'arrivais plus à relancer pour garder cette allure-là. Et j'ai pris la décision en fait de lâcher prise et de me dire ok, là on est au kilomètre 32, c'est sûr que je vais finir, j'ai foi en moi, ça va bien se passer. Et donc je me laisse ralentir et je me laisse porter. Et ça finalement c'est un enseignement que j'aurais dû peut-être retenir un peu plus pour la suite, l'idée de un peu moins se prendre la tête sur réussir mon objectif, tenir bon coûte que coûte, et plus prendre plaisir, prendre pour moi tout le paysage, les gens qu'il y a autour. Ça fait une expérience en fait plus intéressante et c'est ce dont tu te souviens après, plutôt que ok, j'ai été vraiment très très fort, j'ai réussi à maintenir mon allure. Finalement, c'est moins ça que je retiens de ce marathon et c'est plus... C'était incroyable, la météo de folie qu'on a eue, les gens que j'ai croisés. C'était plus ce qui a fait cette expérience-là que, oui, j'ai réussi à tenir mon allure pendant tant de kilomètres, tout ça. Donc.
Est-ce que tu as su tout de suite que ce marathon en appellerait d'autres ou est-ce que tu as eu besoin de l'encaisser aussi en quelque sorte et réfléchir à l'idée de se reprojeter sur un autre défi de cet ordre-là ?
Je savais déjà que c'était seulement le premier. Donc, théoriquement, je savais qu'il y en aurait d'autres. Mais c'est vrai que tout de suite après, je pense qu'on peut difficilement passer à côté des douleurs post-premier marathon. Donc pendant quelques mois, ça a été compliqué de plus concrètement se projeter en disant « Ok, je vais en refaire un autre ». En revanche, pour moi, c'est très symbolique aussi le choix d'une course. Donc j'ai fait Nice parce que c'était la ville de mon mari. Et je savais déjà que je voulais faire Tours parce que c'était la ville de mes parents. Donc sans savoir si ce serait forcément à une date précise... Je savais que à court ou moyen terme, je m'alignerais à Tours aussi.
Est-ce que tu peux nous parler plus généralement de l'accomplissement que tu trouves dans la course à pied ? Là, on a parlé de la compétition et de ce que peut apporter des défis relevés comme un marathon. Ta sortie du dimanche, qu'est-ce qu'elle t'apporte et à quel point elle structure ta vie peut-être ?
Bizarrement, même si j'ai un niveau qui en reste encore vraiment très raisonnable, je cours pas pour le plaisir. C'est une question... qu'on a pu me poser plaisir versus performance. Et bizarrement pour moi, malgré mon niveau, je suis vraiment là pour m'améliorer. Donc même ma sortie du dimanche, je la pense au global sur ma saison. Je réfléchis vraiment comment est-ce que je vais m'améliorer derrière. Donc je vais peut-être plus la faire sur un terrain adapté, tout ça. Je réfléchis vraiment comment est-ce que je m'améliore. Et après... les séances vraiment chouettes aussi que je retiens et que je ferai même si j'avais pas de plan, même si j'avais pas de course à préparer, c'est vraiment les footings touristiques en vacances, en famille, où tu découvres par la course à pied, parce que finalement c'est fou la distance que tu peux parcourir avec juste tes jambes. Et quand tu visites une ville, je pense que c'est les moments les plus plaisants en course à pied, de découvrir un nouvel endroit en courant.
Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer plaisir et performance combinés? Parce que tu as l'air d'un peu distinguer les deux, presque de les opposer. Est-ce qu'on peut imaginer quand même un accomplissement pour toi dans la performance?
Et donc, pas
un accomplissement dans le sens plaisir?
Complètement. Je prends plaisir, en fait, à m'améliorer de toute façon. Et c'est un enseignement de chaque séance. Mais ce moment pendant ta séance qui peut être intense, qui peut être difficile, où tu prends plaisir à être une allure soutenue. En fait, je trouve du plaisir maintenant dans la difficulté, mais c'était pas du tout instinctif et ça a pris du temps. Et ça a pris du temps aussi de un peu préparation mentale, de savoir se dire « Ok, à tel moment de ma séance, c'est vraiment dur. Mais je sais que je suis capable, je sais que je vais y arriver. » Et apprécier une allure soutenue à laquelle on est, où on sait que ça va pas durer très longtemps, donc on peut juste prendre plaisir de se sentir performant dans son corps, quoi. C'est quelque chose que j'ai jamais eu dans une autre dimension de ma vie, de dans ton corps te sentir bien et savoir que t'es en train de réussir quelque chose. Donc ça, c'est ma façon de prendre plaisir au fait d'être performante, en fait.
Donc c'est la course à pied qui t'a révélé ça, en fait. C'est pas forcément quelque chose d'inné, mais c'est voilà, cette espèce d'accomplissement, c'est la course à pied qui te l'a donné.
Complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements ensuite que tu peux rebasculer dans le reste de ta vie et qui viennent de la course à pied à l'origine.
Est-ce que tu peux nous parler de la place de la course à pied au quotidien aujourd'hui entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle et familiale? Comment est-ce que tout ça se glisse? Est-ce que c'est fait partie de ton quotidien tout au long de l'année ou est-ce que tu as des périodes de break? Comment tout ça s'orchestre?
Au quotidien, je prévois ma semaine d'abord pour la course à pied et ensuite je mets le reste dedans. Ça peut paraître bizarre, mais en fait je me suis rendu compte que beaucoup de gens dans leur vie se disent « ok, j'ai pas le temps » et que si tu commences par là et si t'en fais ta priorité numéro une, les autres éléments de ta vie qui sont de facto des priorités, bah finalement ils vont prendre leur place parce qu'ils sont un peu obligés de prendre leur place. Tu vois, je sais que je travaille beaucoup dans ma semaine. Donc je sais que ça va prendre sa place de toute façon. Et programmer ma séance en me disant « en fait, c'est obligatoire, de telle heure à telle heure, je vais courir » et en faire la priorité numéro une, bah, ça ne m'empêche pas ensuite de me donner sur le reste de ma vie. Puis j'ai la chance, du coup, d'avoir un mari sportif, ce qui me permet à la fois de peut-être prendre le même créneau que lui et de me caler comme ça. Donc ça, c'est une opportunité qui se crée toute seule, de courir ensemble ou d'avoir quelqu'un qui a fait à manger après ma séance le soir. Et c'est quelque chose qui nous permet tous les deux de nous entraîner régulièrement, de savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre. Donc ça structure ma semaine. Et puis pour l'année, je pense que je prends naturellement des périodes de break après les gros objectifs. Donc c'est aussi l'occasion de prendre plaisir en famille. Et les vacances aussi, on se retrouve tous globalement un peu de façon sportive aujourd'hui, même si c'est pas du tout axé performance là pour le coup.
Merci beaucoup pour cette présentation, Colline. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, le portrait chinois version sportif. Grand classique. Donc, première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi?
Je ne sais pas si c'est celui que je serais, mais celui qui m'inspire le plus, on va dire, c'est Iron Man. parce que Robert Downey Jr.
Je dis parce que c'est le dernier épisode consacré à Iron Man et j'ai fait une question qui pique sur Iron Man. Donc, l'épisode n'est pas sorti, tu verras, il va sortir, je pense, juste avant toi.
Parfait.
Bref, pardon, je digresse.
Je ne manquerai pas le rendez-vous. c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup pour la franchise Marvel, parce que c'est un super-héros, parce que c'est un humain normal, très très riche, mais normal aussi. Donc je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de ça, de voir que tu peux être juste une personne normale et puis travailler à te rendre meilleur et à devenir un super-héros, quoi. Je le trouve super inspirant.
Tu as une armure du même style ou pas? Tu cours avec?
Oui, tout à fait. Avec toute la technologie.
Ça ne nuit pas trop à tes performances?
Non, je suis propulsée en fait, je triche un petit peu.
9900 km/h, c'est ce que j'ai appris en préparant la question qui pique de l'autre épisode.
Voilà. Oh, c'est fou. Ouais.
Donc c'est 7 secondes pour faire un semi-marathon, donc 14 pour faire un marathon, tu le sauras.
Ah oui, ouais, c'est quand même un sacré chrono.
Kipchoge a du souci à se faire, je pense.
Ah, tu m'étonnes.
Si tu étais un animal, lequel serait-il?
Ah oui, alors là c'est le point clé, on va dire, de ma personnalité de coureuse. En fait, j'ai un animal totem depuis que j'ai 6 ans et c'est la tortue. Et à l'origine, je ne sais pas du tout de quoi ça vient, mais avec le temps, je l'ai vraiment adopté comme un exemple d'endurance et de longévité. Et aujourd'hui, sur la course à pied, ça représente aussi ma pratique du marathon, qui est quand même une course plutôt lente par rapport au reste des propositions running, on va dire. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai des copains qui commencent à me dire « Mais tu sais, Colline, tu t'améliores, t'es plus vraiment débutante, tu pourrais changer. » Mais en fait, non, je vais pas changer. C'est vraiment mon totem pour toute la vie, quoi. Et j'adore cet animal.
Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi en particulier ?
Ouais, alors pour le coup, c'est pas en course à pied, c'est plus en judo. Bizarrement, c'est le seul sport que je suis un peu dans les médias. Et du coup, ce serait Clarisse Agbayeyu. Parce que personnalité incroyable, résultat incroyable aussi, et clairement une personne vraiment très inspirante.
Très bon choix, effectivement, elle est incroyable. J'ai écouté, elle a beaucoup à transmettre. On parle souvent de personnalité inspirante, je trouve qu'elle s'inscrit bien dans cette logique-là. Merci beaucoup, Colline, de t'être frottée à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger maintenant dans ta course épique, le marathon de Tours. Quelques mots introductifs donc, pour emplanter le décor, et donc notamment l'édition 2021 à laquelle tu as pris part à l'automne dernier. Le marathon de Tours, labellisé FFA National, propose un parcours roulant, à la fois urbain, nature et culturel. N'hésite pas à m'interrompre si je dis des bêtises, si je sors de la route. Selon Mondiaux, les coureurs sont amenés à parcourir ces 42,195 km à la découverte du patrimoine historique de Tours, de la majestueuse Loire à vélo et des bords de Cher. Les coureurs s'élancent de la place Anatole France sur le circuit en cœur de ville des 10 km de Tours, donc qui a été ta première course, tu nous en parlais tout à l'heure, pour ensuite découvrir l'ancienne abbaye de Marmoutier, les bords de Loire et les quartiers du Vieux-Tours. Les participants poursuivent leur route sur le circuit de la Loire à vélo, en bord de Cher, en passant par Ballon-Miré, Savonnières, Saint-Génouf, soit 20 km de paysage visiblement plaisant qui surplombe la rivière, avant un retour en ville par la Riche pour rejoindre la place de la Victoire. Un retour qui, tu ne manqueras pas de nous le confirmer, Colline, est un poil monotone. Je pense que ce n'est pas ton meilleur souvenir du marathon, il y en a plusieurs, mais voilà, ça en fait partie, je crois. Sur le parcours, 800 bénévoles et un groupe de musique présent tous les 5 km contribuent à rendre très festive cette course toujours exigeante qui est par nature le marathon, une distance qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer et banaliser. On aura largement l'occasion d'y revenir avec toi, Colline, tout à l'heure. Enfin, le parcours de ce marathon tourangeau se veut être plat et donc propice à des chronos intéressants, avec seulement 56 mètres de dénivelé positif sur l'ensemble du parcours. Voilà ce qu'il faut avoir en tête sur ta course épique qui va nous intéresser aujourd'hui et qui malheureusement t'a joué un vilain tour, on peut le dire. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, c'est l'heure du moment redouté, redoutable de la question qui pique. Donc ce ne sera pas sur Ironman cette fois-ci. On va parler de cinéma. C'est un peu le cas, un peu dans la continuité de ce que j'ai fait précédemment avec Ironman. Tours, qui est le cadre de notre course épique aujourd'hui, on l'aura compris, a accueilli pendant ses années d'enfance et également été le cadre des premières initiatives de réalisation d'un cinéaste français devenu bien célèbre depuis, Patrice Lecomte. J'imagine que tu as en tête quelques films cultes de sa cinématographie, à commencer par Les Trois Bronzés, ou encore dans un registre plus dramatique Tandem, ou encore le sous-estimé Les Grands Ducs avec Marielle, Noiret et Rochefort, que j'adore. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, Les Grands Ducs.
Pas du tout.
Voilà, il faut absolument regarder ce film qui est assez méconnu. Et malheureusement, il ne reste plus un seul de ces trois acteurs géniaux aujourd'hui. Mais par contre, Les Bronzés, t'es calé. Tu connais.
Je connais. Après, est-ce que je suis calé? Je ne sais pas.
On va le savoir bientôt. Donc voilà, comme la saison s'y prête, on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui aux bronzés fonds du ski. Première question donc de ce vrai faux, puisque c'est un vrai faux que je vais aujourd'hui te proposer pour cette question qui pique. Il y a une scène de dégustation de liqueur de crapaud dans le film. Est-ce que tu vois cette scène?
Malheur. Oh non, ça remonte beaucoup trop. Pas du tout.
Je vais te guider. T'as une chance sur deux après, c'est statistique. Il y a une scène de dégustation de liqueur de crapaud quand ils sont dans un chalet et c'est... horrible, ça a l'air absolument infâme ce qu'on leur fait boire. Et donc la scène a dû être reprise 20 fois en raison des fous rires de l'équipe technique pendant qu'ils dégustent cette liqueur ignoble. Est-ce que ça te paraît plausible?
Honnêtement, oui, surtout vu l'équipe. Je les vois bien avoir du mal à tourner la scène.
Effectivement, le chef op était pris de fous rires incessants à chaque fois qu'il devait cadrer les visages penauds, notamment de Gérard Jugnot et Michel Blanc. Et en fait, les acteurs, ils ont avoué après s'être un peu brûlé la bouche durant le tournage, parce que dans cette scène, visiblement, c'était de la vraie liqueur. Donc je pense qu'au bout de 20 prises, ça ne devait pas être très joli. Voilà. Bah écoute, tu vois, ça se passe bien. Bonne réponse.
N'est-ce pas?
Ta mémoire, t'as pas trop joué de tout. Deuxième question de ce vrai-faux. Il y a une scène culte, une autre, dans ce film-là. Enfin, il y en a plein. La scène du planté de bâton. Je pense que tu la vois. Ma question, c'est est-ce que c'est un bâton de trail qui s'amuse à planter ou est-ce que c'est un bâton de ski? Il n'y a pas de piège.
Bah, ils font du ski. Ça me surprendrait qu'ils soient allés chercher un bâton de trail. Non, ça doit être un bâton de ski.
C'est un bâton de ski, absolument. C'était une question sans surprise. Voilà. Par contre, l'instructeur qui incarne donc le moniteur de l'école du ski français a été vraiment choisi par Patrice Lecomte parce qu'il voulait un moniteur savoyard avec le vrai accent et le visage bien buriné. Donc voilà, je ne sais pas si tu as en tête le moniteur de ski avec qui Jean-Claude Duss va prendre des cours. Mais voilà, c'est un régional. Enfin, dernière question de ce vrai-faux. Il y a un moment où les personnages du film se perdent lors d'une sortie de ski hors piste. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment. Et visiblement, il y a une des scènes qui a été coupée au montage pendant laquelle les acteurs envisageraient d'avoir recours au cannibalisme pour se sortir de ce mauvais pas.
Non, ça c'est improbable.
Eh bien, figure-toi que c'est vrai.
Mais non.
Eh oui, donc ça fait partie des 40 minutes du film qui ont été coupées par Patrice Lecomte, puisque le film durait 1h20 et ils ont quand même 40 minutes de chute. Et donc voilà, effectivement, ils avaient envisagé à un moment que cette scène se... Alors non pas qu'ils se mangent, mais en tout cas qu'ils envisagent de le faire. Je crois que Jean-Claude Duss, il a plutôt envie d'aller chercher à faire un dernier bisou avant de mourir, mais ça a malheureusement pas fonctionné. Eh bien écoute, tel Jean-Claude Duss, justement, je pense que le moment est venu de conclure cette séquence de la question qui pique. On va parler désormais de ton marathon de Tours. Alors attends, oui, 2 sur 3, je te félicite quand même, c'est bien.
Ah merci,
franchement,
c'est très
gentil. J'ai oublié de le dire, mais c'est quand même un beau résultat. Allez, on va parler donc de ce marathon de Tours en 2021. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée cette opportunité, ou en tout cas comment toi tu l'as initiée?
Oui, bah, donc c'est une course que j'avais déjà en tête comme étant au programme pour les années à venir. Avec le Covid, je crois que j'avais d'autres choses prévues. Probablement qu'il y avait le marathon de Paris dans le lot, je sais plus exactement, mais je me souviens avoir pris des dossards qui ont été annulés à répétition, jamais très fun, et je crois avoir pris un dossard en 2020 qui a été annulé pour cette course-là. Je pense que c'est aussi très lié au parcours, au-delà du fait que ben, c'était chez mes parents, donc c'est quand même logistiquement très sympa. On l'a dit, hein, le parcours il est extrêmement plat. Pour info, le vrai dénivelé de cette course, c'est un moment où on monte sur un pont. Donc on est vraiment sur quelque chose de effectivement propice à la performance. Et moi, je m'étais dit que ce deuxième marathon, je voulais le faire pour la performance en me fixant un temps. Donc ça se prêtait vraiment bien. Et puis c'était à la bonne période. Tout était fait pour concorder en cette année 2021 du coup.
Est-ce que tu peux nous parler de ta phase de préparation? Combien de temps avant tu as démarré? Et puis est-ce que tu as réussi à t'y tenir fidèlement? Puisque c'est une année, je crois, qui était par ailleurs assez chargée à titre personnel, en tout cas dans d'autres sphères de ta vie. Est-ce que cette prépa, tu as réussi à lui donner sa place? Puisque tu as l'air d'expliquer que c'est ce que tu mets en premier dans ton agenda. Donc est-ce que tu as été rigoureuse dans cette préparation? Et puis est-ce que tu peux nous en donner un peu les grands cycles?
J'ai fait une préparation de 20 semaines.
C'est long ça, non? Pour un marathon, ouais.
C'est assez long, mais dans l'idée, ça te permet aussi d'abord être progressif sur tes sorties longues. Donc à aucun moment, tu n'es censé ressentir de douleur à la fin d'une sortie longue, ce qui peut souvent être le cas quand tu débutes et que tu as un plan de, je sais pas, 12 semaines. Et puis, effectivement, c'est une année où je me suis mariée, où j'ai acheté une maison, on a aménagé. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses.
Acheter une tortue aussi?
Ah, non, pas encore, mais c'est au programme, mais pas encore. Mais du coup, j'ai dû un peu m'adapter aussi avec le voyage de noces qu'on avait organisé cet été-là. Et c'est le début de cette prépa marathon. Au début, on avait prévu de faire, je crois, 3 mois au Canada. Donc, vu les circonstances, on n'a pas fait ça. Et on s'est baladé un peu partout en France, beaucoup à vélo. Donc, il y a une partie de mes séances de course à pied qui se sont transformées en vélo. Je faisais en sorte, en fait, de ne pas avoir trop de volume d'entraînement dans ma semaine. Mais c'est la seule adaptation que j'ai faite. Sur la fin, j'avais des séances un peu difficiles. Il y en a peut-être une qui a sauté. mais en dehors de ça, vraiment, oui, effectivement, j'ai été rigoureuse. A posteriori, je dirais que je me suis sentie fatiguée. Mais j'en avais pas forcément conscience pendant. Et c'est un peu un risque aussi de pas se rendre compte quand on fait trop. Et là, c'était vraiment très lié à ce que je faisais en dehors de la course à pied. Parce que pour le coup, le programme, il était bien calibré. Il était fait pour que je réussisse et aujourd'hui encore, je pense que effectivement, j'étais capable de faire ce qui était prévu par ce plan.
L'objectif de temps, c'était quoi de ce programme?
C'était 3h45. Et alors, 3h45, c'était ce que je m'étais dit. Je crois que l'allure, c'est 5h18. C'est un truc très précis où tu sais ce que t'es censé faire.
Je suis en plein dedans, un plan à 3h45. Là.
Bah, voilà.
Je me dévoile. Mais 12 semaines. Donc effectivement, là, j'ai eu une grosse semaine la semaine dernière. Je suis au bout de ma vie. Là.
Après, c'est une question d'expérience beaucoup. Moi, j'avais fait du cours avec le Covid, tout ça, pour tenir dans l'heure impartie. Donc là, je revenais vraiment sur du long. Et c'était important pour moi de prendre le temps de faire les choses. Mais je ne doute pas qu'on puisse réussir, n'est-ce pas, dans un temps plus court, surtout quand on a de l'expérience.
Ouais, je ne sais pas si c'est souhaitable, en tout cas, mais bon, c'était plus compatible aussi avec mon agenda. Tu participes 3 semaines plus tôt au semi-marathon de Paris. On sait que c'est toujours un bon marqueur et c'est riche d'enseignements puisque voilà, les semi-marathons sont souvent placés juste avant sur la trajectoire qui mène jusqu'à un marathon. C'est une espèce de méga répétition sortie longue plus. Comment est-ce qui s'est passé? Et puis quels enseignements t'as pu en tirer? Quels signaux t'as envoyé ce semi-marathon?
C'est un semi qui a été difficile. Pour le coup, sur ce semi-marathon, je commence à avoir quelques courses derrière moi. Et donc, je n'ai plus de douleurs caractéristiques post-course. J'ai plus de courbatures, juste comme ça. Ce qui est très plaisant quand on monte sur un sport comme ça où c'est un peu caractéristique des débuts. Et en fait, cette course-là, il a fait particulièrement chaud.
Ça existe, ça, au semi-marathon de Paris? J'ai l'impression qu'il pleut tout le temps.
Alors oui, mais d'habitude, c'est en mars.
C'est vrai.
Alors que là, tout le monde a été un peu pris de court, je pense, effectivement, par cette météo. J'étais avec des copains et ça s'est, en termes d'ambiance, c'était vraiment chouette. Et effectivement, pour moi, c'était une sortie longue test où j'avais couru 5 km avant et je faisais 2 fois 30 minutes à l'heure marathon. Donc on n'est pas du tout sur une course faite à fond et c'était censé pas être facile, mais être confortable, quoi. Et effectivement, il a fait extrêmement chaud. J'ai raté un ravitaillement. Je ne sais pas trop comment, mais du coup, j'ai eu soif en plus. Et après, j'avais des courbatures énormes, donc j'ai eu un peu peur. Et surtout, il y a eu cette vision un peu traumatisante du nombre de personnes qui étaient allongées sur les trottoirs. Moi, je les ai vues à partir du 17e.
Ouais, moi aussi, c'était incroyable, l'hécatombe.
Ah, mais c'était fou. Et tu te dis, mais il y en a toujours sur toutes les courses, surtout à Paris, où tu as peut-être... une diversité de profils un peu plus importante que sur des courses plus locales. Ça arrive, mais là, j'ai même des copains qui sont partis plus tard et qui me disaient que dès le 10e kilomètre, il y avait des gens sur les trottoirs, quoi. C'était fou et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Il y a bien un moment où tu te rends compte que ça va pas et donc tu t'arrêtes. Comment tu finis par être allongé sur le trottoir? Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu obsédée ensuite. Et à partir de là, je me suis beaucoup posé de questions sur la nutrition, mon équipement, tout ça. Je m'en étais posé, j'avais un plan. Mais à ce moment-là, il y a peut-être une petite panique. Et pendant quelques semaines, je ne pensais plus qu'à ça, quoi. Je ne pensais plus qu'à mon marathon et à me dire, OK, est-ce que je vais être prête?
Donc il y avait déjà une petite part de doute en toi. Et quand tu as été confrontée à ces images-là, ça a eu un impact peut-être un peu, je ne sais pas si c'est démesuré, mais en tout cas un peu plus fort que ça aurait dû si tu avais été pleinement sereine, tu penses?
Je pense que c'est a posteriori que j'ai ces réflexions-là et que sur le coup, c'est passé dans mon esprit, mais c'est pas forcément resté plus que ça. Je me disais surtout que moi, pour ma course, ce serait une question de mental. Et donc, j'ai surtout travaillé cet aspect-là, d'en parler avec aussi des amis qui ont plus d'expérience que moi sur du plus long, tout ça. Mais c'est pas resté dans mon esprit comme quelque chose de particulièrement traumatisant de les voir... C'était traumatisant en soi, mais ça ne m'a pas forcément traumatisé moi à ce moment-là.
Retour à Tours. Est-ce que tu peux nous dire si tu t'étais inscrite seule à ce marathon ou est-ce que c'était un projet collectif, en tout cas au moins sur la ligne de départ?
J'ai été inscrite avec des copains d'entraînement et mon mari et ma petite sœur couraient le 10 km. Donc en termes de planning dans la journée, on lance le départ du marathon, puis le départ du 10 km. Et dans l'idée, ils me retrouvaient derrière. Mais ça veut dire qu'on se voyait en fait pendant la course et c'était important pour moi de savoir qu'ils étaient là.
On va parler d'objectifs maintenant. C'est quoi tes objectifs sur ce marathon? Est-ce que c'est le temps avant tout? Est-ce que c'est cette notion de plaisir? Est-ce que c'est réussir les deux?
C'est avant tout le temps avec cet objectif très précis des 3h45 et je pense que c'est aussi me dire que je ne vais pas lâcher. Et donc, c'est un objectif mental de dire, même quand ce sera dur, cette fois-ci, je ne ralentis pas. Et cette fois-ci, je maintiens l'allure et je tiens jusqu'au bout. Donc, c'est à mon sens, c'est vraiment mon objectif global sur la course, de dire, OK, cette fois, je ne lâche pas.
Donc, tu avais déterminé avec beaucoup de précision tes temps de passage au grand point d'étape, en tout cas, et aux distances intermédiaires.
Exactement. Je m'étais dit que je faisais des intervalles de 6 km. Et donc, je savais, bon alors là, je ne sais plus, mais je savais exactement à quel temps je devais passer à chaque 6 km.
Pourquoi 6 km?
Parce que 6 x 7, 42. Et parce que ça me paraissait être un bon temps. Enfin, c'est à la fois beaucoup, donc tu peux réfléchir sur une allure moyenne assez stable. Et puis, il n'y en a que 7 fois, donc 42 km. Donc, ça me paraissait être un bon juste milieu. Mais c'est vrai que personne ne m'a jamais dit ça, en fait.
Est-ce que c'est une façon pour toi de découper aussi l'objectif final en micro-étapes et étapes intermédiaires et tu raisonnes à horizon 6 km? C'est un peu ça la logique derrière ça?
Oui, complètement. Sur mon premier, je comptais en 10 km. Mais c'était aussi lié au parcours. Alors que là, finalement, le parcours ne se prête pas forcément à un découpage très régulier. Donc j'avais pris ça de façon assez arbitraire, en fait.
Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce marathon de Tours?
Je m'attends à pouvoir profiter de ma ville que je connais sous un angle un peu nouveau. Parce que, mine de rien, tu vas loin et donc tu sors de la ville que tu connais. Tu te balades le long du Cher, qui est quand même un paysage super chouette que je connaissais à vélo, mais pas à pied. Et donc, je m'attends à pouvoir contempler et puis probablement aussi à être un peu seule et me confronter à cette difficulté peut-être de se retrouver seule face à l'objectif. Et en fait, il y a un peu moins de supporters qu'à Paris, n'est-ce pas? Donc,
Bizarrement.
voilà. D'autant qu'on est vraiment sur la Loire à vélo, donc il n'y a pas forcément la place d'avoir des gens sur tout le parcours. Et comme on s'éloigne un peu de la ville, bah voilà, c'est un peu plus seul. Donc je m'attends aussi à me retrouver avec moi-même dans un état d'esprit un peu méditatif. Et puis dans la nature, ce qui est toujours très chouette.
Est-ce que tu peux nous parler de la nuit qui précède la course? C'est des moments habituellement assez forts en émotion et souvent perturbés. Est-ce que toi, tu es plutôt sereine ou est-ce que c'est assez perturbé comme nuit et comme derniers instants d'avant-course?
Est-ce que je me souviens?
Ça t'a pas traumatisé alors, ça veut dire que ça a été plutôt bien.
Ce dont je me souviens surtout, c'est le fait d'avoir été très stressée pendant plusieurs semaines et que d'un coup, ça ait disparu. Je suis allée chercher mon dossard et finalement, je devais être un peu sûre de moi et me dire, non mais en fait, j'en ai déjà fait un, ça va bien se passer. Et d'un coup, toutes les routines habituelles de préparer ta nutrition, tes affaires pour le lendemain, tout ça s'installe. Et finalement, un peu au dernier moment, je me souviens avoir été extrêmement sereine.
Nous sommes le dimanche 26 septembre 2021, nous sommes à quelques minutes du départ de ce marathon de Tours. Quel est ton état d'esprit sur la ligne de départ? Comment est-ce que tu te sens? Et puis est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendes malgré tout? Si tu parles de sérénité, est-ce que malgré tout il y a quelque chose qui t'occupe un peu l'esprit?
Oui, non, sur la ligne de départ, le stress revient. C'est sûr que quand on se retrouve avec, bah là en l'occurrence, mon mari, ma petite sœur et puis quelques copains qui étaient dans le coin, j'ai pris conscience du fait qu'on était très peu nombreux, parce qu'on est 700 sur le départ du marathon, et je pense que les départs avaient été aussi un peu échelonnés. Donc on a un tout petit groupe autour du meneur d'allure des 3h45, et je prends conscience du fait que, bah, en fait, dès le début, on va être un petit peu tous seuls finalement, et qu'il n'y aura pas un espèce d'énorme troupeau comme sur les grosses courses parisiennes dont j'ai l'habitude. Donc ça, c'est un peu stressant, mais aussi rassurant de me dire, ok, on est directement dans la course, quoi. C'est pas, on risque un peu moins l'euphorie du début.
À quoi ressemble la météo à ce moment-là?
C'est parfait. Honnêtement, on a eu beaucoup de
Beau et
chance.
frais.
Oui, et c'est toujours un peu le risque quand tu prépares un marathon pendant des semaines de te dire, bon, on fait quoi si comme sur mon premier marathon, il y a une tempête, le truc que tu peux pas prévoir. Là, c'était idéal.
Le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler des 10 premiers kilomètres de ta course et puis quels premiers signaux tu ressens de la part de ton corps? Comment est-ce que tu vis cette première heure de course, on va dire?
Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un parcours que je connais bien parce que c'est le parcours des 10 km de Tours. Donc je suis en confiance. Et je m'étais dit que je commencerais, j'avais travaillé, on va dire, de foulée pour pouvoir passer de l'une à l'autre au besoin. Et je pars avec une foulée assez légère, forcément trop vite, mais ça,
Le classique.
parce que c'est un peu habituel. Et je suis contente en fait de partir tranquillement avec mon petit groupe de gens qui visent tous le même objectif que moi. Au cinquième kilomètre, on n'est pas loin de l'abbaye de Marmoutier et on a ce premier ravitaillement où je réalise qu'il va y avoir un problème parce que le meneur d'allure s'arrête pour boire. Et je me rends compte en fait que l'eau est donnée dans des verres extrêmement grands que je ne suis pas capable de tenir avec une seule main. Donc je suis un peu obligée de m'arrêter et moi je m'étais dit bon bah je prends un verre et je pars en courant. Et c'est pas du tout possible quoi. Donc tu t'arrêtes au moins peut-être 30 secondes et le meneur d'allure dit hop on y retourne et on le suit et on repart. Et ça, je me suis pas dit sur le coup ok c'est une catastrophe, mais je me suis dit on a un problème là, il faut que j'arrive à ne pas m'arrêter parce que sinon comment je fais pour tenir mon objectif? Et juste après ça, il y a le fameux pont où on a tout le dénivelé.
Gros dénivelé, tu sors les bâtons. Ouais.
C'est ça. Et en fait, dès ce moment-là, je ne me sens pas facile. Donc ça, c'est une toute petite inquiétude de me dire « Non mais on est au tout début du marathon, c'est une blague, c'est pas possible. » Et puis on passe le 10e kilomètre, nouveau ravitaillement, nouvelle incapacité à le prendre en courant. Mais pour l'instant, quelque part, je me dis « Bon, c'est pas tout à fait normal, mais je me pose pas plus de questions que ça. »
T'es pas dans l'analyse, en tout cas, t'arrives à en tout cas pas te focaliser sur ça et à essayer quand même de profiter ou en tout cas de rester concentré et pas te laisser envahir par le doute.
Exactement, je prends un peu plus de distance et je me dis, bon, mais c'est un marathon, quoi, donc normal.
Au 18e kilomètre, tu es encore dans les temps que tu t'étais fixé, mais la situation se corse un petit peu après, puisque aux environs du 25e kilomètre, on te retrouve titubante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer? Est-ce que toi, tu as l'impression que à ce moment-là, tu es en train de perdre le fil de ta course?
Oui, en fait, à partir du 15e kilomètre, les ravitaillements sont plus que tous les 2,5 kilomètres. Donc tu as l'occasion tout le temps de boire de l'eau. Et moi, j'ai très soif, tout le temps. Et on a toujours cette situation où à chaque ravitaillement, on s'arrête entièrement. Le meneur d'allure qui repart plus ou moins en même temps que moi. Mais je commence à avoir cette petite pression de me dire, il faut pas que je le lâche, quoi. Et il y a même un ravitaillement où le meneur d'allure s'arrête et va aux toilettes. Donc tu te dis, mais c'est fou quand même, comment c'est possible? On perd pas mal de temps. Et je réalise petit à petit qu'avec ma technique des 6 km là, bah, finalement je cours mes 6 km beaucoup plus rapidement que prévu, puisque je m'arrête complètement au ravitaillement. Donc je me fatigue plus vite. Et arrivé au 25e kilomètre, c'est anormalement dur par rapport à mon expérience de me dire « Ok, au semi, tu te sens normalement encore bien. » Et je vois des paillettes un peu partout. Et à partir de là, à chaque ravitaillement, j'ai une demi-seconde pour me tenir droite. Et les bénévoles qui tiennent les stands s'en inquiètent un peu et me disent « Madame, ça va bien ?» Donc je réalise que ça se voit aussi de l'extérieur, quoi. Je me sens pas bien et ça se voit. Mais c'est principalement... je me sens déboussolée plus qu'autre chose. J'ai pas vraiment de douleur physique. Typiquement douleur de hanche qui revient un petit peu, les pieds un peu fatigués, mais c'est pas dans mon corps, c'est autre chose, et c'est ce qui me fait peur en fait, de pas comprendre pourquoi est-ce que ça va pas, et pourquoi est-ce que c'est pas facile.
Ça annonce à compter du kilomètre 25, un passage donc plus monotone le long du Cher, on en a parlé. Dans quelle optique tu es alors, là, compte tenu des signaux que tu viens d'évoquer? Est-ce que t'as révisé un peu tes objectifs par la force des choses?
Pas du tout.
On lâche rien.
Pas du tout, on lâche rien, on était venu pour ne rien lâcher, donc on lâche pas. Et je garde un peu en tête cette idée que bon, c'est pas un 10 km en fait, c'est un marathon, c'est normal que ce soit dur. Mais je sais pas à quel point c'est normal. Et je me dis, on a dit qu'on lâchait pas, donc je continue à regarder ma montre et à rester à l'allure. Sauf qu'à partir de ce moment-là, à partir du, je crois, 24e, je suis déjà plus dans l'allure. Et je perds du temps à chaque intervalle. Donc c'est frustrant parce que je me rends compte petit à petit que je suis en train de pas tenir mon objectif du tout. Et effectivement, c'est extrêmement monotone. On se retrouve dans des endroits où il y a tellement personne et où je suis tellement toute seule que quand je passe devant des supporters, je les encourage à nous encourager. Parce que voilà, c'est mentalement, c'est difficile de passer dans ces endroits où il y a personne du tout, quoi.
À quoi tu t'accroches justement? Qu'est-ce qui te fait tenir hormis ces interactions là, ces sollicitations avec le peu de public qu'il y a sur le côté? C'est quoi ton idée phare pour te dire qu'il ne faut pas lâcher?
Je pense à mes proches. Je sais que mon mari a prévu de venir me voir au 38e kilomètre. Donc, c'est pas loin. Et je me dis, ok, il faut tenir jusque-là. Et un petit peu, tu sais, c'est mon mari, donc j'aime bien qu'il soit fier de moi. Et je me dis, ok, il faut que j'arrive au 38e en étant bien et qu'il puisse être fier de voir sa petite femme arriver. Je veux pas juste arriver et m'effondrer devant lui, quoi. Il faut que je sois à l'aise. Et c'est mon idée, c'est ma fixette de me dire, ok, il est où le 38e? Il est où le 38e? Il faut qu'on y arrive, quoi.
Est-ce qu'il y a une part de toi qui commence à envisager malgré tout une possibilité d'abandon ou c'est totalement exclu?
En fait, je pense que c'est déjà trop tard. Je suis assez convaincue que pour abandonner, il faut être lucide. Et il faut savoir que c'est techniquement possible et que ça puisse être une option. En fait, c'est pas du courage, je suis pas fière de dire ça, mais je ne pense même pas à abandonner. Et je pense que j'en suis techniquement pas capable, parce que c'est pas dans mon esprit, mon esprit est déjà trop loin et trop peu lucide pour se dire que bon, en fait là ça va vraiment pas quoi, c'est Colline, tu marches pas droit en fait, donc arrête-toi et pas forcément abandonne hein, mais même juste marche 2 minutes et puis on repart tranquille. Cette lucidité que j'avais pu avoir sur mon premier marathon de dire en fait on va y arriver donc c'est pas grave, tranquille. Là je l'ai pas du tout, je suis techniquement incapable je pense de me dire que ça va pas et qu'il faut que je prenne une décision.
Tu retrouves donc comme prévu ta mère et ton mari au 38e kilomètre, tu réussis à atteindre cet objectif, cet affixé dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'eux identifient tout de suite l'état de difficulté dans lequel tu es ?
Alors, ça se voit, donc ils voient que ça ne va pas, mais ma mère m'a dit qu'elle n'avait pas pensé tout de suite que c'était un problème, parce qu'elle n'a pas cette expérience de voir des marathoniens, et elle se dit, oui, bon, bah, on approche la fin du marathon, quelque part c'est peut-être normal que ça soit dur. Mon mari me propose un gel en pensant que peut-être je manque d'énergie. Et je sais que c'est pas ça le problème, parce que j'ai l'habitude et parce que j'ai pas faim, je me sens pas faible. Mais je sais pas lui dire ce qui va pas. Donc lui a cette expérience de constater qu'il y a un problème, mais on sait pas quoi. Et donc la seule solution qu'on a, c'est de continuer.
T'arrives à avoir un flot de discussion qui se tient. Enfin, c'est, votre échange, il est serein ou toi, t'es un peu à côté et tu sais pas trop ce que tu dis?
Ah non, mais je ne parle pas.
D'accord.
Je suis plus trop capable. J'ai dû lui dire, c'est pas ça le problème. Et c'est tout ce que j'ai dû lui dire. Je pense aussi que ma mémoire a peut-être été un peu effacée, mais j'ai pas souvenir de pouvoir tenir une discussion, non. Je me souviens plutôt lui avoir lancé des phrases, par exemple parce que j'avais du mal à voir où est-ce qu'il fallait aller, avec les barrières qui délimitent le parcours. Des fois, j'avais l'impression que la voie était barrée, parce que ça tourne en fait. Je vois pas qu'on peut tourner. Donc c'était plutôt lui envoyer des phrases comme ça en lui disant où est-ce qu'on va, plutôt que de tenir une conversation.
Là, il y a des moments où tu marches à ce moment-là ? Ou est-ce que tu essaies de maintenir un semblant de rythme de course ?
Je ne marche pas parce que techniquement, il y a un moment où j'ai les deux pieds qui touchent plus le sol. Mais si tu regardes mon allure à ce moment-là, j'ai une allure de marche. Clairement, et j'ai une foulée qui est très particulière et qui ne me ressemble pas du tout, où j'ai les jambes en avant et le corps en arrière, et c'est lent, ça se dodeline, c'est très bizarre. J'en ai conscience, hein, mais j'arrive pas à la corriger.
Est-ce que c'est presque de la marche rapide, en fait, un équivalent ?
Bah, je crois que tu n'as pas le droit de ne pas toucher le sol en marche rapide,
c'est vrai,
non ?
T'as besoin d'avoir un des deux pieds tout le temps, ouais, exactement. On va demander à Yoann Diniz.
C'est ça.
Ta course, elle s'arrête avant la ligne d'arrivée, après 41,9 km contre les 40,2 que compte le marathon. Est-ce que tu peux nous parler de ces toutes dernières centaines de mètres de ta course et ce dont tu te souviens en tout cas de ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Je me souviens surtout que je maîtrise plus rien du tout, que c'est infini. Là, ce qui est très particulier, c'est que pour le coup, on est dans Tours. Et encore une fois, c'est ma ville, j'ai l'habitude d'y courir et je ne reconnais absolument rien. Pourtant, en plus de connaître la ville, j'ai travaillé le parcours. Donc je sais où je suis censée être et je ne reconnais pas. Et il y a cette arche gonflable sous laquelle on est censé passer et qui s'effondre à ce moment-là. Donc en plus, c'est un peu perturbant. Et puis je sais qu'il faut la contourner. Mais en fait, il se passe beaucoup de choses dans ma tête et j'ai du mal à attraper les idées. Ça devient vraiment très compliqué de penser finalement. J'ai toujours mon mari à côté de moi qui me suit très lentement.
Il t'incite à t'arrêter, lui ? Il te dit qu'il faut...
À ce moment-là, il me dit... En fait, il m'a expliqué ensuite qu'il constatait que j'avais des symptômes un peu bizarres. Lui, ce qui l'a fait réagir, c'est que... Donc, j'avais la tête qui partait en arrière et j'avais du mal à la garder droite. Mais ce qui l'a fait réagir réellement, c'est le fait que j'avais les mains recroquevillées sur elles-mêmes. Et c'est un symptôme dont il avait déjà eu l'expérience qui, en fait, est neurologique. Quoi. C'est, tu perds le contrôle, c'est pas du tout musculaire. C'est pas que ton corps, c'est aussi ton esprit qui part un peu en cacahuète. Et à ce moment-là, il me dit... d'abord, il me dit « Viens, on marche ». Donc, je m'exécute parce que je suis pas dans une position de réfléchir. Donc, je fais ce qu'on me dit. Et puis, il constate que ça va vraiment pas. Et dans son esprit, il se dit « Bon, on s'arrête 2 minutes ». Et puis on est à 300 mètres, quoi. On tourne à droite et c'est fini. Donc on s'arrête 2 minutes et on repart. Et là, pour moi, tout s'arrête. Je pense a posteriori parce que je me suis sentie en sécurité d'être avec lui. Du coup, mon cerveau s'est éteint, quoi. Et là, j'ai un trou de mémoire de à peu près une demi-heure.
Qu'est-ce qu'on t'a raconté de cette demi-heure ?
On m'a raconté que on s'était assis sur le trottoir, le fameux trottoir, et que je m'étais un peu, on va dire, avachie sur mon mari, que les secours avaient vu cette situation et étaient venus voir ce qui se passait, que j'avais plus de 42 fièvres et que j'ai été perfusée là sur le trottoir en urgence.
Tu reprends tes esprits donc au bout de 30 minutes ? Est-ce que tu prends pleinement conscience de la situation et puis est-ce que tu as peur ? Je pense que c'est la première question qu'on peut se poser. À ce moment-là, est-ce que tu dis que tu es en danger ?
En fait, je reprends conscience dans le camion des secours. Et il se trouve que j'ai eu un accident un peu plus tôt dans l'année. Et en fait, ça me rappelle exactement ce moment-là où clairement, j'ai peur de mourir. Quoi. C'est assez drastique et c'est un peu fou aujourd'hui avec le recul de penser ça. Mais sur le coup, c'est pas très rationnel. Et je suis dans un camion de secours, je vois les portes se refermer sur mon mari qui est à l'extérieur, je panique un peu quoi. Et puis ça se rééteint. je repère, je sais pas si je perds conscience, mais en tout cas j'ai à nouveau plus de souvenirs. Jusqu'à ce qu'on m'emmène dans la tente des secours, où là je reprends doucement mes esprits.
Quel a été le diagnostic qu'ont posé les médecins qui t'ont observé à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils te racontent de ce qui se passe ?
On m'a dit que j'avais une déshydratation et une hyperthermie. Donc hyperthermie, ça veut juste dire que j'ai de la fièvre et que mon corps n'arrive pas à se réguler pour refroidir. Et une déshydratation, ça devrait sous-entendre que j'ai pas assez bu, alors qu'à chaque ravitaillement, tous les 2,5 km, j'ai bu énormément d'eau, quoi. Donc sur le coup, je comprends pas du tout comment c'est possible. Au total, je crois qu'ils m'ont mis 2,5 litres d'eau salée dans le sang. Donc c'est absolument énorme. Et en fait, ma compréhension... c'est que je me suis déshydratée malgré l'eau que je buvais, probablement parce que j'étais épuisée, parce que justement je courais trop vite entre les ravitaillements, probablement aussi parce que je buvais de l'eau claire, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours recommandé sur des efforts comme ça où on transpire beaucoup et où il faut apporter des minéraux. En fait, il y a plein de raisons différentes, plein de petites choses qui peuvent peut-être expliquer que je me sois retrouvée dans cette situation. Mais toujours est-il qu'à la fin, c'est pas tant un problème du corps. En fait, ce qui m'a éteinte, c'est vraiment le cerveau qui, en cas de déshydratation, se dessèche un petit peu. C'est assez imagé, mais dans l'idée, c'est ça. C'est ton cerveau qui se rétracte et qui, du coup, fonctionne beaucoup moins bien. Et ça explique à la fois les mouvements pas très naturels, ce qu'on pouvait voir de mes yeux qui apparemment regardaient pas droit. Les mains dont je parlais, la posture, la tête, bon, tout ça. Et puis le fait de perdre un peu la mémoire et sur le coup de plus être capable de répondre aux questions qu'on me pose.
L'hyperthermie, elle est liée à ta déshydratation ? C'est vraiment deux symptômes, deux choses distinctes ?
Alors je ne sais pas exactement parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas trop, mais de ma compréhension, c'est possible effectivement que je n'ai pas réussi à me refroidir. Le fait de boire, ça participe aussi à te refroidir pendant un effort. Et que ça n'a pas fonctionné, quoi. J'insiste sur le fait, comme on l'a dit, la météo, elle est parfaite. Hein. Il ne fait pas particulièrement chaud. Et c'est pas un paramètre important, comme typiquement sur le semi de Paris dont on parlait. Là, effectivement, il avait fait chaud. À Tours, ça va. Hein. Ce n'était pas ça le problème.
Au bout de combien de temps, ton état de santé redevient un tant soit peu rassurant ? Et puis, est-ce que les médecins, ils étaient prêts à te libérer à ce moment-là ? Ou est-ce qu'ils avaient envie de te garder un peu sous surveillance ? Parce que la situation était encore un peu précaire et instable.
J'ai passé 2 heures sous cette tente et ces 2 heures à monitorer le fait que mon esprit revienne. Donc c'est beaucoup de questions du genre comment s'appelle votre mari ? Et je sais que en fait je connais son nom mais il me paraît très bizarre alors que c'est mon mari quand même. et puis j'ai une amie qui nous appelle et je sais pas qui c'est alors que c'est mon amie. Il y a des choses assez peu rationnelles comme ça, je sais pas dire mon adresse par exemple. Donc c'est des choses qui reviennent petit à petit et qui, ça rassure en fait les soignants de voir que ces choses-là reviennent. Mais de temps en temps, il y a des trucs bizarres du genre j'ai mal aux jambes d'un coup comme ça ou j'arrive pas à les bouger. Et ça leur fait très peur parce que une fois qu'on parle de neurones, c'est possible qu'il y ait des membres qui répondent plus. Ça les inquiète. Et de temps en temps, tout le monde s'excite. On passe de « tout va bien madame » à « oh là là, il faut enlever vos chaussures ». Donc c'est des petits moments de panique. Mais finalement, au bout de 2 heures, quand tout le reste de la course a été nettoyé, ils hésitent à se dire est-ce qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Et puis, un peu sans que j'arrive à l'expliquer, d'un coup, ça va mieux. Et je pense que ça y est, mon corps a fini de se réparer. Et bah, on se lève et on part.
Donc, ils te laissent partir? Ils sont OK pour ça?
Ils me laissent partir en me disant bah, attention à la suite, attention à ce que vous allez manger, reposez-vous bien. mais pas de contre-indications importantes et pas surtout de, on va dire, de suivi médical.
Au moment où tu réalises que tu n'as pas pu aller au bout de ce marathon, est-ce qu'il y a de la place dans ton esprit pour la moindre déception à cet instant? La seule chose qui compte, c'est juste que tu sois vivante, alors que la situation aurait pu mal tourner, en tout cas, quelle que soit la conséquence, mais en tout cas, aurait pu évoluer de façon bien pire. C'est ça qui compte ou est-ce qu'il y a une part de regret à cet instant-là?
Sur le coup, c'est vraiment la première... C'est même pas la première question qu'on m'a posée, c'est la première chose qu'on m'a dite, y compris un soignant qui m'a proposé d'aller me chercher la médaille de la course en me disant que j'étais presque arrivée et que je la méritais quand même. Sa phrase, ça a vraiment été « Ah, vous devez être tellement déçue ». Et effectivement, non, sur le coup, je suis contente d'être vivante, en fait, parce que c'est vraiment tout ce qui compte. Et après, en y réfléchissant, je suis pas déçue parce qu'effectivement, je suis allée au bout de moi-même, quoi. J'ai effectivement pas lâché. Donc c'est pas très positif et probablement que j'aurais dû, c'est sûr. Mais je peux pas m'en vouloir. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et ce qui a pas fonctionné, bah, quelque part, c'est pas tant que ça ma faute et c'est pas une question de manque de préparation. Je sais ce que je dois faire pour la suite et faire en sorte que ça ne réarrive pas. Mais sur le coup, je peux pas être déçue, quoi.
Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est t'arrêter plus tôt?
Non. Idéalement, c'est ne pas avoir besoin d'arrêter. Mais c'est probablement réfléchir différemment ma course. Ne pas me dire, OK, il faut absolument que mon allure moyenne corresponde à ce que je veux. Je pense qu'il faut penser à son allure comme un maximum. Se dire, OK, l'allure que j'ai fixée, c'est mon max. J'ai pas le droit d'aller au-dessus. Et puis... Je pense qu'il faut aussi que je travaille ma nutrition, faire en sorte d'avoir de l'eau avec moi pour avoir moins besoin de m'arrêter à ravitaillement et contrôler ce que je mets dedans, probablement une boisson d'effort, gérer les minéraux, tout ça. J'ai encore pas mal de travail là-dessus.
Donc là, tu mets le curseur à fond sur plaisir et un peu moins sur performance, c'est ça l'idée sur les prochaines courses?
C'est ça. Je pense que dans l'idée, il faut être capable de prendre du plaisir pour devenir performant et le réfléchir dans l'autre sens, c'était peut-être une erreur.
Est-ce que tu peux nous parler des jours qui ont suivi cet événement-là et ce triste dimanche? Est-ce que tu as eu des symptômes qui ont persisté? Est-ce que tu as assez vite repris du poil de la bête?
Dans mon esprit, j'ai pas eu du tout de séquelles et c'est très chouette parce que quelque chose qu'une soignante a dit, c'est 300 mètres de plus, ça aurait pu donner des séquelles long terme. Donc en l'occurrence, j'ai vraiment rien eu et ça c'est vraiment bien. En revanche, comme on peut l'avoir sur un marathon d'une manière générale, et là... par excellence. J'ai eu des problèmes de digestion derrière. On m'avait dit, il faut faire attention, ne mangez que des choses qui vous donnent envie et le moins solide possible. Bon bah effectivement, hein, les 3 jours qui ont suivi, mon système digestif fonctionnait pas du tout. Mais rien de grave et bon bah j'ai attendu un peu plus longtemps pour manger des dragibus et des pizzas. En attendant, je me suis contentée de manger de la purée et finalement, ça passe quoi. C'est pas fun mais c'est pas... du tout aussi grave que ce que j'avais pu penser, notamment parce que je n'avais pas de douleur physique particulière. Et encore une fois, j'avais toute ma tête, quoi. C'est fou après 2 heures à se sentir complètement en dehors de soi que d'un coup tout revienne et qu'il n'y ait pas de séquelles.
Est-ce que pour toi c'est un souvenir qui est douloureux aujourd'hui ou est-ce que tu es plutôt reconnaissante de la façon dont tu t'es sortie de ce mauvais pas et dont les choses ont tourné?
Je suis très reconnaissante envers les soignants et envers mes proches. Et je suis reconnaissante des enseignements que j'ai pu en tirer, notamment pour la suite et les prochaines courses qu'il y aura. Parce que sur le coup, je m'étais dit, OK, après ça, on fait une vraie pause. Et finalement, d'avoir vu d'autres courses, et notamment le marathon de Paris qui était juste après, je me suis vraiment dit, non mais en fait, j'ai un truc à finir. Et donc, il faut que j'y retourne et que je fasse les choses bien. Donc finalement, je garde un souvenir bizarrement positif, en me disant, c'était mon deuxième marathon. J'ai arrêté de dire que je n'avais pas fini mon deuxième marathon parce que ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui compte, c'est, OK, j'ai eu ma deuxième expérience et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour la suite.
J'imagine que tu as eu l'occasion d'en reparler avec ton entourage. On a parlé de toi, de ta perception, évidemment, de cette course et de la façon dont elle s'est conclue. Est-ce que tu sais comment eux ont vécu? Est-ce que vous avez eu l'occasion de reparler de tout ça et comment eux, aujourd'hui, vivent avec ça? Est-ce qu'ils ont plus d'appréhension maintenant quand tu te projette sur une course, est-ce que tu Est-ce que vous en parlez ou pas d'ailleurs ?
Sur le coup, j'ai un souvenir très vif de mon mari extrêmement calme, ce qui est propre à lui-même et j'en étais pas surprise, mais c'est toujours très plaisant et très, très calmant de le voir calme lui-même. Je me dis, ok, donc ça va. Et puis ma petite sœur, qui se trouve à ce moment-là être jeune sapeur-pompier et étudiante en médecine, qui me dit exactement ce qu'il faut. Elle est absolument pareille, calme, elle est posée, elle me dit que ça va bien, que tout est ok. Et c'est très impressionnant dans une situation pareille où toi, tu as l'impression que tu es en train de mourir. Et du coup, quand on en a reparlé derrière, je pense qu'ils ont eu le temps de mûrir ce qui s'est passé aussi. Et mon mari, notamment, a beaucoup réfléchi. Il se trouve que moi, je suis restée à Tours un jour de plus et lui, il est parti, donc on n'a pas été ensemble. Et ça a permis aussi que chacun réfléchisse à cette expérience. Et je pense qu'il a eu très peur. Du coup, on en a reparlé un peu plus à froid. Et il s'est dit qu'il aurait dû comprendre et il aurait dû m'arrêter. Et j'espère aussi, du coup, moi-même, être capable d'arrêter un marathonien, même à 300 mètres de l'arrivée, si les 300 mètres en question peuvent lui coûter trop cher, quoi. C'est dur de se dire ça. Et ça a été d'autant plus dur pour ma mère, parce qu'elle s'est dit, mais en fait, j'avais pas forcément compris que ça allait vraiment pas. C'est elle qui filme les derniers instants de course. Et c'est amusant parce que dans cette vidéo, on l'entend dire « Allez Colline, bravo, continue !» alors que je suis en train de m'effondrer, quoi. Donc ce détachement, cette différence, en fait, sur le coup, je le comprends pas trop. Mais derrière, je réalise qu'elle a aussi très peur. Et effectivement, elle veut être là pour la suite de mes projets. Et elle est pas tout à fait rassurée. Elle pensait que du coup, je m'arrêterais d'un coup et que j'arrêterais de courir, quoi. Donc se dire, non mais en fait elle y retourne, je pense que c'est aussi un peu inquiétant.
Pour avoir vu la vidéo, effectivement, c'est aussi très très impressionnant, là, quelques centaines de mètres de l'arrivée à la toute fin. C'est hyper spectaculaire et un peu angoissant, faut le dire.
Un peu, hein.
Est-ce qu'il y a une image que tu retiens aujourd'hui de cette course ?
Je crois que j'ai pas d'autre image que justement le visage de mes proches. Et en fait, c'est dommage parce que j'étais venue aussi pour les paysages. Mais j'étais pas forcément suffisamment lucide pour les apprécier. Et du coup, ce que je retiens, c'est surtout le visage des soignants et de mes proches à la toute fin, quoi. J'aurais aimé pouvoir retenir la ligne d'arrivée, n'est-ce pas ? Parce que du coup, je l'ai même pas vue. mais l'image la plus importante, c'est vraiment ça. C'est vraiment les gens qui sont là pour moi, alors que moi, j'ai plus rien à donner, quoi.
Je pense que tous nos auditeurs tireront eux-mêmes des conclusions de ce que tu as raconté, mais est-ce que tu as malgré tout toi un message sur lequel tu veux appuyer, insister ?
Je pense que quand on se lance sur marathon, que ce soit pour le faire une fois comme un défi un peu fou, lancer le 31 décembre avec un peu trop de champagne, ou que ce soit comme je voulais le faire moi, un peu sérieusement, en se disant « ok, c'est un vrai objectif et je veux le faire bien », dans tous les cas, il faut être conscient que ça peut partir en cacahuète, même quand on est bien préparé. Et il faut savoir repérer en fait ces symptômes qui sont pas des douleurs physiques et qui sont trop dangereux. Je pense qu'il faut savoir se dire si je commence à justement voir des paillettes, pas me tenir droit, c'est trop grave en fait, ça vaut pas le coup. Et même alors même que pour moi c'est important justement d'être performant, je pense qu'il y a des limites à ça et que tant pis pour les 20 semaines de préparation extrêmement rigoureuse. Tant pis, là, c'est plus grave que ça et ça vaut le coup de au moins faire une pause, au moins se poser la question et ensuite voir et éventuellement terminer un peu plus tranquillement, quoi. Mais sur le coup, je voudrais insister sur le fait que même si on se croit prêt, même si on se dit « oui, je vais tout donner et je vais faire moins de 3 heures sur mon premier marathon », peut-être qu'il faut être un peu humble envers la distance reine et se dire que tout peut arriver.
Est-ce que tu as reparticipé à des courses depuis, même sur des plus petits formats ? Et si oui, est-ce que c'était une source d'appréhension, de plaisir ? Est-ce que tu as changé complètement d'optique ? Si c'est le cas, si tu as reparticipé à des courses ?
Alors, pas encore, parce que j'ai des dossards qui ont été annulés encore. mais j'ai un dossard pour le semi de Paris à venir. J'ai un dossard pour le marathon de Paris à venir. Et je pense que je vais plus les aborder dans cet état d'esprit-là. Pas forcément sans penser du tout à la performance, mais vraiment en me disant, à nouveau, objectif, finir bien, prendre plaisir et vouloir y retourner derrière. Un peu plus prendre soin de soi et le faire pour être bien et pour en être fier, pas pour à tout prix avoir un temps particulier qui, objectivement, ne veut pas dire grand-chose.
À plus long terme, on a parlé de ces objectifs-là pour les semaines à venir, puisque c'est imminent en tout cas. Tu l'attends même en phase de prépa du marathon 2022, en plein dedans. Est-ce qu'il y a un projet sportif qui te fait particulièrement envie à plus long terme? Là, tu as fait un marathon dans la ville de ton mari, de tes parents. Qu'est-ce qui reste? Tu as des cousins au Danemark, dans Massachusetts, sur le Kilimanjaro? Ça pourrait être quoi le grand rêve sportif pour toi?
Effectivement, je pense que je voudrais courir d'autres marathons et je ne sais pas forcément encore lesquels. Tu vois, je m'étais dit que je voulais courir Bordeaux parce que c'est rigolo, c'est de nuit, c'est un peu plus aussi dans la Cambrousse. Bon, c'est malheureusement une course qui n'existe plus, donc tant pis. Donc, à voir pour les prochains marathons à courir. Je sais typiquement que les majors, c'est toujours assez excitant. Mais en parallèle de tout ça, à l'origine, pour de la récup, je me suis doucement mise à nager. Puis doucement à rouler.
Ok, je te vois venir.
Voilà. Et donc l'année dernière, j'ai fait mon premier triathlon olympique. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à explorer là-dessus. Peut-être aussi parce que tu maîtrises beaucoup moins ton chrono. Et du coup, tu y es beaucoup plus pour prendre plaisir et tout donner, mais un peu moins en suivant la montre. Et un peu plus en se disant, est-ce que là, je peux donner plus? Allez, vas-y, tu donnes plus. Et prendre plaisir dans l'effort plutôt que de courir après un chrono.
Pourquoi tu penses que dans le triathlon, par rapport au chrono, le rapport n'est pas le même?
Non, c'est juste mon expérience.
D'accord, ok.
Je suis bien placée pour savoir, parce que pour le coup, mon mari a couru un Ironman l'année dernière, donc c'est quelque chose qui est aussi présent dans ma famille. Je suis bien placée pour savoir que beaucoup de gens mettent des chronos objectifs. Moi, c'est plus ma vision des choses. La course à pied, ça restera mon dada de performance, et le triathlon, c'est plus full plaisir.
Je te propose de conclure classiquement cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais un motto, une devise qui t'est particulièrement chère et que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs?
Oui, ça s'y prête assez bien en plus. Depuis que je suis toute petite, c'est mon père qui nous dit « improviser, dominer, gagner ». Et typiquement, c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant cette course, parce que je pense qu'il y a un moment où j'aurais dû lâcher le plan d'origine et me dire « ok, là j'improvise ». Et ça me permettra de finir mieux et de gagner finalement. Je pense qu'il faut savoir aussi se détacher de ses plans de base et improviser pour dominer et gagner.
Merci beaucoup Colline, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience qui a été particulièrement marquante de ta vie, on l'aura bien compris. Il n'est jamais très simple de partager ce type d'expérience qui ne se passe pas forcément comme on l'imaginait et qu'on pourrait percevoir à tort, vraiment j'insiste, comme un échec. Ton histoire, c'est aussi l'occasion de dire à nouveau combien il est important de ne jamais banaliser une course à pied, quelle que soit la distance, et notamment évidemment le format mythique qu'est le marathon qui alimente beaucoup de fantasmes, puis une espèce de surenchère dans les distances. Je pense qu'il faut rester toujours en pleine conscience de ses capacités, rester aussi assez humble, tu l'as dit, par rapport à ce qu'on est en capacité de faire, et puis de pas se mettre en danger outre mesure, puisque on est exposé à beaucoup de surenchères, d'exploits et de dépassements de soi qui nous inspirent, donc c'est génial pour ça, mais je pense qu'il faut aussi savoir un peu remettre en perspective. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est important d'être prudent sur cette distance et puis cette envie d'aller toujours plus loin, qui est finalement très humaine, être mesuré et pas se mettre en danger outre mesure. Merci pour nos échanges et ton précieux témoignage, Colline. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures. Et puis surtout, j'espère de renouer avec la médaille de finisher le 3 avril prochain du côté de l'avenue Foch.
Ah, merci beaucoup, je penserai à toi sur la ligne d'arrivée.
Merci, Colline. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.